prédication. C'est la fin du festival du film, mais je voudrais rester dans l'ambiance cinéma et vous demander, je vais passer un extrait de film, l'extrait d'un film, et vous allez essayer de deviner dans quel livre de la Bible je vais vous entraîner pour cette prédication et d'autres prédications, dans cette série de prédications. Vous êtes prêts ? Magnifique, vous avez deviné ? Oh ! Vous avez deviné ? Alors j'aimerais l'entendre. Exode, Moïse, le prince d'Égypte, paru en 98, ça commence à dater déjà, hein ? Et donc on va parler de ce Moïse, du livre de l'Exode, le deuxième livre de la Bible. Et pour ceux qui suivent le plan de lecture en 6 ans, vous savez, là où il faut gratter, vous avez lu samedi le premier chapitre d'Exode. Et je ne l'ai pas fait exprès, c'est un hasard avec un grand D derrière à la fin du mot. L'Exode, un livre fondamental et même fondateur. C'est le récit de la naissance d'une nation, la naissance aussi d'une conscience nationale pour le peuple juif, le peuple hébreu. Mais pas seulement. Et pour les chrétiens, c'est aussi fondateur. Il y a tout dans ce livre de l'Exode, vous allez le voir. Et j'aimerais vous poser une question. Quels passages vous viennent en mémoire? Quels sont les épisodes de l'Exode qui vous semblent importants ou fondateurs? Je vous écoute. Oh, bah, bravo, hein. C'est vrai? J'ai bien entendu, merci Michel. La manne. Autre chose. Moïse, le panier, la naissance de Moïse.
Le buisson ardent,
merci la dame en rouge au premier rang.
La nuée.
J'en ai encore 4-5 que j'aimerais que vous trouviez. Le Sinaï, qu'est-ce qui s'est passé au Sinaï? Les tables de la loi, le décalogue. Mais enfin, c'est dans l'Exode tout ça. Autre chose. La sortie d'Égypte, la traversée de la mer Rouge. Et avant ça, la Pâque. Et après, aussi, la construction du tabernacle. Et pour finir, sur une mauvaise note, le veau d'or. Voilà. Vous voyez tout ce qu'il y a dans le livre de l'Exode? Alors, il y a tellement, c'est un récit tellement fondateur, qu'on en a fait des films, avec, en 1956, c'est selon Charlton Heston, les 10 commandements, avec dans le rôle de Pharaon, à droite sur l'écran, Yul Brynner, fameux, qui a joué aussi dans les 12 salopards d'ailleurs. Il était magnifique cet acteur. Charlton Heston, j'aime moins, mais vous savez que ça a été le plus gros budget de tous les temps à l'époque. 17 millions de dollars, le film a été filmé, a été fait au Sinaï, en Égypte, et voilà. Et puis, je ne sais pas si vous l'avez sorti, mais en 2014 est sorti un film qui s'appelle Exode, Dieu et Roi, par Ridley Scott, avec Christian Bale, mais à mon avis, ça a fait un... Qui se souvient de ce film? Ça a fait un four, hein? Comme un peu Gladiateur 2 de Ridley Scott, encore de Ridley Scott, un four, bon bref. Et puis, il a aussi inspiré, l'Exode a aussi inspiré des mouvements sociaux. Comme par exemple le mouvement anti-esclavagiste du 19e siècle, avec cette chanson qui revenait, qui vient des Negros Spirituals, « Let my people go », « Laisse mon peuple partir », dit Moïse à Pharaon plusieurs fois. Et pour les esclaves des États-Unis, le mot « exode » du pays de la servitude, de l'esclavage, ils sortent, un thème fondateur pour eux. Mais aussi le mouvement pour les droits civiques du XXe siècle avec Martin Luther King, le pasteur baptiste, j'insiste, pasteur baptiste, qui a initié ce mouvement pour défendre les droits civiques pour encore une fois les Afro-Américains, et qui s'est basé aussi sur le thème de l'exode, de la libération. Et puis, on le sait peut-être moins, les révolutionnaires anglais du XVIIe siècle, avec le fameux général puritain Oliver Cromwell, qui a un protestant puritain qui a fait basculer l'Angleterre, bien avant la Révolution française, vers un régime parlementaire. Et il s'est considéré, dans les années 1640, comme étant le Moïse de son temps. Alors, je ne sais pas, il avait certainement tort de se prendre pour Moïse, mais il a utilisé ce thème de l'Exode, le Moïse de son temps et l'Angleterre comme le nouvel Israël. Mais ce récit de l'Exode dépasse les films et les mouvements sociaux qui sont inspirés. C'est un livre universel et tellement actuel qui nous parle de libération, de la sortie de l'esclavage, de nos servitudes, de nos emprisonnements, de nos maladies spirituelles, comme le disait Paul tout à l'heure, mais qui nous parle aussi de Dieu et de sa présence. On le verra avec le tabernacle, mais de sa présence lorsque les circonstances sont difficiles. C'est un livre qui parle de la foi, c'est-à-dire de la confiance que l'on peut faire à Dieu, même quand les lumières de la vie sont éteintes, même quand on marche dans la boue, même quand on subit les coups de fouet. Et l'Exode est donc tout à fait pertinent pour vous et moi qui vivons des situations où on se demande où Dieu est, tant on a l'impression de marcher dans l'obscurité et de vivre sous l'oppression, sous la servitude de faux dieux, dans le découragement d'une cause perdue. Et donc je vous invite à faire un long voyage avec moi, pas seulement historique, mais aussi spirituel, qui te concerne aussi. Il y a un rabbin Gamaliel, dont le Talmud, le commentaire de la Torah, le commentaire de la Bible hébraïque, fait référence, et qui disait: tout fidèle a le devoir de se considérer comme ayant été personnellement tiré d'Égypte. Ce sera un petit peu notre leitmotiv. Tout fidèle doit se considérer comme ayant été personnellement tiré d'Égypte. Alors on va lire le premier passage. Voici la liste des fils d'Israël qui ont accompagné Jacob, donc on a Exode 1:1. En Égypte, chacun avec sa famille, Ruben, Siméon, Lévi et Judas, Issachar, Zabulon et Benjamin, Dan et Nephtali, Gad et Aser. Les descendants de Jacob étaient au nombre de 70 en tout, Joseph étant déjà en Égypte à ce moment-là. Et on appuie sur pause. Le texte hébreu, la langue dans laquelle a été écrit le premier testament, commence par une consonne qui veut dire « et ». Waouh ! C'est pas « waouh », mais c'est « et ». Et. Et en cours de français, il me semble qu'on nous apprend à ne pas commencer une phrase par « et », mais là, l'auteur ne s'embarrasse pas de grammaire, surtout pas de grammaire française, et commence par « et ». Et. Pour nous dire que l'Exode continue le premier livre de la Bible, la Genèse, et surtout continue la promesse que Dieu a faite à Adam déjà, à Adam et Ève, à Noé, Et surtout, à Abraham, la promesse d'un pays, promesse d'un peuple qui lui soit propre, la promesse d'une bénédiction pour toutes les nations, surtout, la promesse, tout simplement, du salut. En Dieu qui fait alliance avec les hommes et les femmes et qui l'aime d'un amour éternel, malgré ce qu'on appelle la chute, mais plutôt qu'il faudrait appeler la rupture ou la révolte de l'homme au jardin d'Éden alors que tout était très bon, qui est une rébellion contre Dieu, un mépris de Dieu. Je veux faire sans toi, je veux être Dieu à la place de Dieu, comme disait Is No Good, calife à la place du calife. Et pourtant, Dieu persévère dans son amour, et c'est donc ça la promesse de la grâce, malgré la rupture, malgré le non. On ne veut pas de toi. Dieu continue à aimer. Dieu continue à être fidèle à lui-même. Et l'Exode commence par un titre, une liste de noms qui redit que cette promesse est en cours à travers des personnes. Des noms qui datent un peu. Ils étaient 70, ça veut dire en Égypte il y a 400 ans. Avec Joseph, le petit frère, un des petits frères de la tribu de Jacob, on en a parlé il y a quelques années de ces livres de la Genèse et de cette histoire de Joseph qui part en Égypte, etc., et puis après qui accueille ses frères, toute cette belle histoire dans le 30e chapitre de la Genèse. Ils étaient 70 à l'époque, ils sont plusieurs centaines de milliers maintenant en Égypte. 250 000 peut-être, certains disent 2 millions, mais c'est peut-être beaucoup, je parle à l'époque. Et en tout cas des centaines de millions, de milliers, et les choses ont changé, le pharaon est beaucoup moins favorable à ce peuple hébreu, pour dire le moins, mais la promesse est toujours là. Mais Dieu est fidèle à son amour, Dieu est fidèle à lui-même. Notons que le mot exode est un mot grec, ex odus et odos, hors du chemin, sorti qui veut dire sorti, et ce nom a été donné par les traducteurs du Premier Testament, qui ont traduit le Premier Testament, l'Ancien Testament, si on veut le dire comme ça, en grec, parce que le monde entier parlait grec, c'était au IIe siècle avant Jésus-Christ. Ils ont tout traduit en grec pour qu'on puisse comprendre, parce que même les Israélites ne comprenaient plus l'hébreu. Et donc, ils ont choisi le mot exodus, exode, sortie. Alors que dans le canon hébraïque, on a gardé la tradition de prendre le premier mot pour donner comme titre. Par exemple, pour la Genèse, on a donné le premier mot, Bereshit, commencement, Genèse, c'est bien traduit. Et là, en hébreu, c'est Shemot, Shemeot, les noms. Voici les noms, en fait c'est le deuxième mot, mais bon. Voici les noms, et suit les noms de toutes les tribus d'Israël. Et ce mot aussi fait le lien. La promesse est portée par des personnes qui ont des schémotes, qui ont des noms. On continue la lecture. Joseph mourut, ainsi que tous les frères et toute leur génération, les Israélites furent féconds, proliférèrent, se multiplièrent et devinrent de plus en plus puissants, si bien que le pays en fut rempli. Un nouveau roi vint au pouvoir en Égypte et il ne connaissait pas Joseph. Il dit à ses sujets, voyez, le peuple des Israélites est plus nombreux et plus puissant que nous. Il est temps d'aviser à son sujet pour qu'il cesse de se multiplier. Sinon, en cas de guerre, il risque de se ranger aux côtés de nos ennemis et de combattre contre nous pour quitter ensuite le pays. Alors on imposa aux Israélites des chefs de corvée pour les accabler par des travaux forcés. C'est ainsi qu'ils durent bâtir pour le Pharaon et les villes de Python et de Ramsès pour servir de centre d'approvisionnement. Mais plus on les opprimait, plus ils devenaient nombreux et plus ils se répandaient au point que les Égyptiens les prirent en aversion. Une autre version dit « se mirent à les détester ». Alors ceux-ci les réduisirent à un dur esclavage. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes corvées, fabrication de mortiers, confection de briques, travaux en tout genre, dans les champs, bref, toutes les tâches auxquelles on les asservit avec cruauté. Il y avait deux sages-femmes pour les Hébreux. Pause. Hébreux. Première mention du mot hébreu dans la Bible. 35 fois dans l'Ancien Testament, 16 fois dans le livre de l'Exode hébreu. Ce mot, et je cite les spécialistes, pourrait signifier, on n'est pas sûr de son étymologie, mais qui vient de l'autre côté. Il vient de celui qui vient de l'autre côté. Tu sais l'hébreu, là. Des transjordaniens ou des trans-euphratiens, l'Euphrate, le grand fleuve, plus au nord. Alors, on ne sait pas trop d'où ils viennent, ces Hébreux, mais ils sont là. On a retrouvé des communications, on a retrouvé dans des textes administratifs du Proche-Orient ancien, vers 1500 ans avant Jésus-Christ, la mention, beaucoup de mentions, d'un peuple qui s'appelle les Abirous. Abirous, hébreux. Il y a des traces de ce peuple dans l'histoire. Et cela même si des Égyptiens ont du mal à parler de leur défaite. On continue. Il y avait deux sages-femmes pour les Hébreux. Elles se nommaient Shifra et Pua. Le Pharaon leur donna cet ordre. Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous aurez constaté le sexe de l'enfant, si c'est un garçon, mettez-le à mort. Si c'est une fille, qu'on la laisse vivre. Mais les sages-femmes craignaient Dieu. Elles n'obéirent pas au Pharaon, elles laissèrent la vie sauve aux garçons. Alors le Pharaon les convoqua et leur demanda « Pourquoi avez-vous fait cela? Pourquoi avez-vous laissé vivre les garçons ?» Les sages-femmes répondirent au Pharaon « C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes, elles sont pleines de vie. Avant que la sage-femme arrive auprès d'elles, elles ont déjà mis leur enfant au monde. » Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple continua à se multiplier et devint extrêmement puissant. Comme les sages-femmes avaient agi par crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur famille. Alors le Pharaon ordonna à tous ses sujets « Jetez-les dans le fleuve. » Tous les garçons nouveau-nés, jetez dans le fleuve tous les garçons nouveau-nés des Hébreux. Mais laissez vivre toutes les filles. Un homme de la tribu de Lévi épousa une fille de la même tribu, elle devint enceinte et donna le jour à un fils. Elle vit que c'était un beau bébé et le cacha pendant 3 mois. Quand elle ne parvint plus à le tenir caché, elle prit une corbeille en papyrus, l'enduisit d'asphalte et de poix et y plaça le petit garçon, puis elle déposa la corbeille au milieu des joncs sur la rive du Nil. La sœur de l'enfant se posta à quelque distance pour voir ce qu'il en adviendrait. Peu après, la fille du Pharaon descendit sur les bords du fleuve pour s'y baigner. Ses suivantes se promenaient sur la berge le long du Nil. Elle aperçut la corbeille au milieu des joncs et la fit chercher par sa servante. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle eut pitié de lui et dit « C'est un petit des Hébreux !» De l'autre côté. Alors la sœur de l'enfant s'approcha et dit à la fille du Pharaon « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour qu'elle t'allaite cet enfant ?» La fille du Pharaon lui dit « Va ». La jeune fille alla donc chercher la mère de l'enfant. La princesse lui dit « Emmène cet enfant et allaite-le pour moi, je te paierai un salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille du Pharaon. Celle-ci l'adopta comme son fils et lui donna le nom de Moïse. Sorti, car dit-elle, je l'ai sorti des eaux. C'est bien de lire toute l'histoire, un peu long, mais c'est bien. Alors, j'ai une question, chers amis, encore une. Quel est le héros de ce passage? Et il y a un petit piège dans cette question.
Les sages-femmes?
Seulement les sages-femmes? Hein? Les femmes! J'ai pas fait exprès, je savais pas que c'était la fête des mères. Encore un hasard avec un grand D. Mais ce sont les femmes, les héroïnes de ce passage, avec la sœur de Moïse qui est là, Myriam qui guette ce qui se passe, Myriam et son cantique dans Exode 15, « Il a culbuté dans la mer cheval et cavalier ». On le verra par la suite. La mère de Moïse, Jochébed, qui a des assonances avec Yahvé, qu'on peut dire c'est la gloire de l'Éternel. La gloire de Dieu, Jochébed. Et puis il y a la fille de Pharaon également. Et les sages-femmes, Shifra et Pua. Alors, J'attendais que quelqu'un dise, le héros c'est Moïse, et vous ne l'avez pas dit. Mais non, c'est pas le, il a fait que naître. Il fait rien dans l'histoire. Il est juste tiré des eaux. Il s'appelle Moïse, c'est un nom très courant en Égypte. Moses, qui veut dire engendré. Et il y a des pharaons qui s'appellent Moïse, tout Moïse, tout un dieu égyptien, donc Moïse engendré de tout. Les pharaons égyptiens se prenaient pour des dieux, engendrés par tout le dieu égyptien, tout Moïse sorti. Et donc le héros, c'est bien les femmes et en particulier les deux sages-femmes. Et le fait de donner des noms à ces deux sages-femmes et montre ou est un signe incroyable du gros plan que l'auteur, que le narrateur veut mettre sur ces femmes, sur ces deux sages-femmes. Et surtout, ironie de l'histoire, ironie du narrateur, le pharaon n'est pas nommé. C'est juste le nom générique, le roi, le pharaon. On ne le nomme pas. S'agit-il de Ramsès II, le grand pharaon constructeur du XIIIe siècle, ou de Amenophis III, un autre pharaon du XIVe siècle? Peut-être, ce sont des hypothèses qu'on a lancées. Mais là, l'auteur ne les nomme pas, mais là, il nomme, par contre, c'est Chifra et Pua. L'Éternel, « Je te connais par ton nom », dit Dieu dans sa parole. Alors, le pharaon a un rôle dans l'histoire. Il a le mauvais rôle. Et il n'en a certainement pas conscience. Pour l'instant, ou en tout cas au début, il essaie de préserver l'intérêt national de l'Égypte. Il y a une menace de l'intérieur. Il y a trop de sémites parmi nous et le pays est en danger. Et il va commencer par prendre des mesures de contrôle de la population. Il va alourdir le travail pour espérer un taux de mortalité maximal chez les travailleurs hébreux. Mais ces chiens continuent à se développer. Alors, le grand leader qui se croit sortir de la cuisse de Ra ou de Ré, le dieu égyptien, fait appel à deux femmes responsable de la natalité chez les femmes hébraïques. Et il va leur demander l'impensable. À elles qui ont pour vocation d'aider à donner la vie, il va leur demander de supprimer des bébés garçons pour couper court à la natalité chez le peuple hébreu. Il préserve les filles. On pourrait penser qu'il s'agit de compassion ou de mansuétude pour les filles. Regardez, j'épargne les filles, mais non. C'est pure tactique. Les filles vont se marier avec des Égyptiens. Et ça sera fini du peuple hébreu et qui sera complètement assimilé. Et ce qu'on observe, oui, les femmes, j'ai oublié de le dire, j'avais trouvé cette formule. C'est les femmes à la genèse de l'Exode. Je trouvais que c'était pas mal comme formule. Les femmes sont là. Elles sont là dans le plan rédempteur de Dieu. Et on observe une fuite en avant du pharaon. Une fuite en avant dans le mal. On passe du contrôle de la population à un meurtre de masse, à des infanticides en série. Je lisais quelque part que le pharaon passe du plan A au plan B, puisque le plan A n'a pas marché, c'était alourdir la tâche. On passera, et puis comme le plan B marche pas bien non plus, on va passer au plan C, la machine du mal est en marche. La fuite en avant dans le mal. Et on imagine les justifications du grand leader. J'agis pour le bien de la nation. Il y a péril en la demeure. La fin justifie les moyens. Non, le mal, c'est mal. Une fuite en avant qui a fait école dans l'histoire de l'humanité. Et je pense qu'il est important de se souvenir aussi de l'histoire. Je pense à la montée du nazisme. Les pogroms des années 30, la solution finale des années 40. La fuite en avant dans le mal, avec un homme qui incarne tout ça, Joseph Goebbels, le chef de la propagande, l'instigateur de la solution finale, qui se suicide le 1er mai 1945 dans un bunker avec sa femme et ses 6 enfants, l'un à côté de l'autre. Fuite en avant dans l'horreur. Mais l'horreur, malgré la Shoah, l'horreur n'a pas le dernier mot. Le plan B, c'est-à-dire la suppression des enfants, n'a pas fonctionné grâce à 2 petits bouts de femmes, Shifra et Pua, qui viennent avec un aplomb incroyable contrecarrer les plans funestes du dirigeant de la superpuissance de l'époque. Ce n'est pas rien. Vous vous souvenez du Covid, où on parlait de ces métiers essentiels, et j'ai donné comme titre à cette prédication « Sage-femme, métier essentiel ». Essentiel, qui touche à l'essence, qui touche à l'être, qui touche au devenir de ce peuple hébreu. Quelqu'un écrivait « Sans elle, il n'y aurait pas eu de Messie, il n'y aurait pas eu Jésus-Christ ». Il a raison, mais je me dis, Dieu aurait trouvé autre chose. Mais en même temps, Dieu les a choisis pour mettre en œuvre ce plan de rédemption. Il a choisi Shifra et Pua. Et en fait, non, je me trompe, il ne les a même pas choisis. Le texte ne nous dit pas qu'il a choisi Shifra et Pua. Elles étaient là, tout simplement, et elles ont pris, alors qu'elles exerçaient leur métier de sage-femme, des décisions courageuses, des héroïnes, sans le savoir peut-être, mais en le voulant. Shifra et Pua, des héroïnes, sans le savoir, mais en le voulant. Et on voit des pointes d'ironie un peu partout dans le récit, le fait d'abord que le grand pharaon doit discuter avec 2 sages-femmes du peuple hébreu pour arriver à ses fins. Après, on a parlé aussi du nom. Le pharaon n'est pas nommé, les 2 sont nommés. Et puis, il y a une troisième pointe d'ironie, quand les sages-femmes disent au pharaon, « Comme les femmes hébreues sont plus robustes que les égyptiennes, elles accouchent avant qu'on arrive. » Non seulement elles désobéissent au grand leader, non seulement elles mentent effrontément, mais en plus, elles lancent une petite pique aux femmes égyptiennes. Quel aplomb. Alors, je ne sais pas si c'est délibéré de leur part, mais ce qui est évident et ce qui est tout à fait délibéré, c'est leur désobéissance civile. Elles désobéissent. Ces femmes désobéissent à la loi de Pharaon parce que cette loi est génocidaire. Quand cette loi est contre la vie, quand cette loi est contre la vie humaine, il y a une ouverture vers la désobéissance civile. Et je cite encore ce qui s'est passé dans le Chambon-sur-Lignon pendant la Seconde Guerre mondiale, dans les années 40, au début, dans ce village de Haute-Loire, ce village tout près de Saint-Agrève, qui est en Ardèche, à 10 km de Saint-Agrève, la ville, le village de mes grands-parents maternels. J'ai été bercé par les histoires du Chambon-sur-Lignon, qui, tout le village, a caché plus de 5000 juifs pendant 42, 43, 44, ou même 40, 41. 5000 juifs, surtout des enfants, sans qu'il n'y ait aucune délation dans le village, avec le pasteur Bugner, et qu'ils l'ont fait malgré la Gestapo, malgré la milice, malgré le gouvernement de Vichy, qui a envoyé 10 000 déportés à lui tout seul. Une désobéissance civile caractérisée pour la vie. Je pense aussi à cette juge, je change tout à fait d'époque, à cette juge des États-Unis du Wisconsin, Anna Dugan, 65 ans, a été arrêtée par le FBI en plein milieu du tribunal parce qu'elle avait, soi-disant, protégé la fuite d'un réfugié sud-américain. Et la ministre de la Justice américaine a dit « Si vous protégez un fugitif, peu importe qui vous êtes, nous vous traquerons et nous vous poursuivrons en justice. » a déclaré Pam Bundy sur Fox News. Personne n'est au-dessus des lois, d'accord ? Mais si les lois sont iniques, si les lois sont mortifères, je prie pour la libération de cette juge, de Anna, courageuse elle aussi. Alors oui, il y a Romains 13, où Paul nous dit qu'il faut nous soumettre aux autorités. Mais il y a aussi Acte 4, je crois, où les apôtres disent « il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ». Et il y a aussi le prophète Ésaïe qui dit « malheur à celui qui émet des décrets injustes ». Alors, c'est pas facile, on est sur une ligne de crête, soumission, désobéissance, rébellion, on n'est pas là pour tomber dans l'anarchie, et il faut simplement beaucoup de discernement, beaucoup de sagesse, beaucoup de vigilance, mais aussi beaucoup de courage. Et je me disais aussi que ces sages-femmes, elles ont juste fait leur boulot. Elles ont fait leur boulot de sages-femmes, mais avec une éthique. Une éthique qui est celle de donner la vie. Une éthique qui est celle d'aider à donner la vie. Un respect de la vie humaine. Et je me dis, une éthique comme ça dans le travail, ça fait toute la différence. Mais le texte nous dit la raison de leur action et de leur désobéissance. Il nous est dit dans le texte, elles désobéirent parce qu'elles craignaient l'Éternel. Oui, pourquoi elles le font ? Ce n'est pas pour obtenir une bénédiction tout à fait improbable. Les risques sont énormes. Si elles sont découvertes, elles sont mortes. Mais elles révèrent l'Éternel. Littéralement, elles craignent l'Éternel. Elles craignent Yahvé. Celui qui est maintenant, on le verra dans le buisson ardent, et qui le sera pour toujours, qui est, était, qui est et qui sera. Elles craignent Yahvé. Alors on sait très bien que craindre dans la Bible et dans l'Ancien Testament, mais je le répète, qu'il ne s'agit pas d'avoir de Dieu une peur bleue, la peur du juge ou de la rétribution, mais on pourrait parler plutôt d'un profond respect, d'une révérence à Dieu. Elles révèrent l'Éternel, un profond respect. On pourrait parler d'estime, je l'ai lu dernièrement. Elles tiennent Dieu en grande estime. Elles tiennent Dieu en plus grande estime que ce pharaon qui leur dit de tuer des petits-enfants, qui montre ses muscles et sa puissance de feu. Il y a un puritain du XVIIe siècle, peut-être de la bande à Cromwell, qui disait « Nous craignons Dieu, nous craignons tant les hommes, parce que nous craignons si peu Dieu. » Mais ces deux femmes craignent Dieu. Et c'est parce qu'elles ont Dieu en grande estime qu'elles font ce qu'elles font, et le monde s'en trouvera transformé. Ces deux petits bouts de femmes, je me répète, au métier essentiel, ose tenir tête au pharaon et contrecarre ses plans pour permettre au projet de Dieu, au projet d'amour de Dieu pour l'humanité de se réaliser. Elles sont à la genèse de l'Exode. Elles sont à la genèse du plan de rédemption et de libération du monde. Quel exemple pour nous ! Mais pas un exemple qui nous écrase, comme David contre Goliath. Moi, je vous dis, j'arriverai jamais à sortir avec ma fronde contre les Goliaths de ce monde, mais comme Shifra et Pua, en faisant chacun son travail avec une certaine éthique dans la vie et en regardant à Dieu, on accomplit quelque chose qui nous dépasse largement. On est pile poil dans la présence, dans la promesse de Dieu. On est là où on doit être. Je vous donne quelques pistes de réflexion pendant que Megan s'approche pour jouer de la harpe. Trois questions pour la route, pour notre exode personnel. Comment les échecs de Pharaon pour anéantir le projet d'amour de Dieu, le projet bienveillant de Dieu, vous encouragent-ils par rapport à la situation du monde actuel ? Qui ou quoi tenez-vous facilement en plus haute estime que Dieu ? Pourquoi ? En quoi êtes-vous appelé à obéir courageusement à Dieu ? En gardant confiance en ses promesses.